Le titre de cette série est inspiré par la chanson d'Edith Piaf. Et c'est une chanson où elle ne sait pas si ça vaut la peine ou pas d'être en couple. Une partie de la strophe, elle chante que c'est positif. Et dans la partie suivante, elle chante que c'est négatif. Et puis après, de nouveau positif. Et puis après, de nouveau négatif. Et bien sûr, les disputes sont le top, le numéro un du négatif dans les relations amoureuses, dans cette chanson-là d'Edith Piaf. Dimanche dernier, Clarissa a commencé à parler sur comment bien se disputer. Quand vous êtes dans le vif du conflit, que vous êtes très fâché contre l'autre, vous pouvez dire, écoute, je suis très fâché. Si c'est comme ça, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais prendre un temps à part. Je vais réfléchir sur comment je peux plaire à Dieu avec cette situation, rendre gloire à Dieu. Et je vais aussi faire l'effort de retirer ma poutre. Et ça sera bien fait. Et ensuite, je reviens et je vais parler avec toi. C'était en effet ces deux premiers conseils pour bien se disputer. Le premier R, c'était rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Tout dans notre vie peut être utilisé pour rendre gloire à Dieu. Et dans la Bible, Paul il dit que même manger et boire pouvaient être faits pour donner rendre gloire à Dieu. Même manger et boire, des choses toutes simples, on peut faire ça pour dire merci Dieu pour ce que tu nous donnes. Il complète sa pensée en disant ça, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Le deuxième R que Clarissa avait partagé, c'était retirer la poutre. On a pris ce deuxième R de ce verset de Matthieu. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Retirer la poutre, c'est faire le choix de ne pas corriger l'autre trop rapidement. Avant d'aller vers l'autre, on fait d'abord l'examen sur nous-mêmes. Et Clarissa nous a cité cette phrase de Ken Sunday où il dit « Même si on a seulement 2% de part dans le conflit, on est 100% responsable de nos 2%. » Et donc les deux prochains R d'aujourd'hui sont ceux-là. Le prochain, c'est « Redresser avec douceur ». Après avoir fait le R1 et le R2, c'est le moment d'aider l'autre aussi à voir sa responsabilité dans le conflit, bien sûr. Si on a déjà reconnu notre part de responsabilité dans le conflit, on peut et on doit aller vers l'autre pour lui dire. Et ce qui se passe très souvent, c'est quand on commence avec la confession, quand dans le conflit, on commence en disant « en fait, moi, j'ai eu tort dans ce point-là », l'autre va aussi être encouragé à avouer ses fautes, parfois. Et là, ça ouvre directement le chemin, la réconciliation. Quand ça se passe comme ça, c'est très facile. Hein, il confesse sa part d'erreur, l'autre aussi, la réconciliation vient vite et puis tout est bon. Mais parfois l'autre n'est pas aussi coopératif. On va imaginer que Jean et Anne sont un couple, il y a un conflit, Jean fait son bout de chemin pour réfléchir comment il peut glorifier Dieu dans cette situation, il remarque sa partie du problème, il enlève la poutre qui est dans son œil, il s'approche d'Anna pour confesser ce que lui, il a fait. Et maintenant, on imagine que Anna dise « Je te pardonne ». Voilà, plus rien. Comme si tout était juste la faute à Jean. Alors là, c'est pas possible la réconciliation. Ça n'a pas résolu le conflit parce que la plupart du temps, les deux ont une responsabilité, une partie en tout cas de responsabilité dans un conflit. J'aimerais citer un exemple d'une situation réelle. C'était nécessaire de redresser avec douceur, mais avec des noms fictifs. Il y a Victoria qui avait été renvoyée de son travail à cause de certains points professionnels qui n'étaient pas OK, mais aussi à cause de son habitude de critiquer ouvertement sa patronne. Du coup, Victoria, qui est chrétienne, elle a consulté un conseiller chrétien et elle voulait entamer une poursuite pour renvoi injustifié envers son entreprise. Et le conseiller a pris beaucoup de temps pour discuter et pour prier en recherchant à découvrir comment elle pourrait rendre gloire à Dieu, même au travers de cette situation. Dieu a commencé à travailler dans le cœur de Victoria et elle a décidé d'aller rencontrer son ex-patronne et de reconnaître sa partie du problème, sa partie de responsabilité dans le problème. Du coup, quand les deux femmes se sont rencontrées le lendemain, la patronne s'attendait à ce que Victoria négocie un arrangement financier pour éviter une poursuite, Mais étonnamment, non. Victoria a confessé ses erreurs, situation par situation. Elle a avoué qu'elle avait mérité d'être envoyée. Et elle a demandé pardon à son ex-patron. La patronne était tellement surprise qu'elle a juste pu dire « bien sûr ». Mais puis, elle ne savait plus quoi dire. Mais Victoria a continué. Elle a dit « merci pour ton pardon ». Et j'aimerais bien m'arrêter ici, mais si tu me le permets, j'aimerais aussi te partager certaines choses que j'ai remarquées qui contribuent à créer cette tension parmi le personnel. Ça pourrait t'aider à éviter des problèmes avec tes employés dans le futur. L'offre semblait assez sincère, alors l'ex-patronne a accepté d'écouter. Et Victoria a commencé à s'exprimer avec grand respect. Mais, et en même temps, elle a remarqué que les yeux de sa patronne commençaient à se remplir de larmes. Du coup, elle s'est arrêtée et puis elle dit « Je suis désolée, je pense que je devrais m'arrêter ici. » Et la patronne dit « Non, tu comprends pas. Tu m'as pas blessée, c'est juste que je viens de réaliser que tu es la première personne que je me souvienne qui s'est suffisamment souciée de moi pour me parler de cette manière. Personne d'autre n'avait eu le courage de venir parler. » Alors après, Victoria a pu finir de dire ce qu'elle avait prévu. Elle a toujours parlé avec respect. Et même si sa patronne n'était pas d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est pas grave, elle était très reconnaissante qu'elle ait eu le courage de venir parler sur ces points difficiles. Pas seulement confesser ses propres erreurs, mais redresser avec douceur. Et par la grâce de Dieu, les deux femmes se sont quittées en paix dans cette situation. Redresser avec douceur. Ce R, il est venu de ce verset-là. Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, le prochain, oui. Vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Donc la première chose que ce verset dit, c'est qu'on doit parler aux autres de leurs manquements. Dans le couple aussi, on a la responsabilité de ne pas laisser l'autre descendre la pente de son erreur en disant « c'est sa vie, de toute façon, il fait ce qu'il veut ». Parce que comme le verset de Matthieu qu'on avait lu disait, la personne peut être aveuglée. Et ça serait en fait un manque d'amour si on n'avertit pas l'autre de toutes ses erreurs. S'il prend un chemin qui blesse le conjoint ou qui blesse d'autres personnes, on ne peut pas le laisser juste cheminer comme ça sans rien dire. Mais la deuxième chose que ce verset dit aussi, c'est avec douceur. Du coup, ce n'est pas lancer de la figure de l'autre toutes ses erreurs. Ce n'est pas faire une chasse aux fautes. Laisse-moi voir toutes les erreurs de mon mari. Pour qu'à la fin de la journée, je puisse dire tout ce qu'il a mal fait cette journée. C'est pas ça. C'est ramener. Ce verset de cette version dit ramener quelqu'un au droit chemin. Ramener, je pense, quelqu'un qui te prend par l'épaule, te conduit dans un meilleur endroit, qui t'aide dans tes manquements. Pas comme un horrible prof ferait, comme j'ai entendu de quelqu'un. 2,5 de nouveau, tu n'apprendras jamais. Pas comme ça, mais plutôt. Oui, tu as 2,5 de nouveau. Est-ce que je peux m'asseoir avec toi et on va découvrir ensemble pourquoi ça n'a pas été? Je peux t'aider à te développer. Ça, oui, ça, c'est un vrai compagnon. Aider l'autre à agir différemment, ramener au bon chemin. C'est ce qu'on est appelé à vivre. Et d'ailleurs, là, c'est moi, je conseille fortement de traiter qu'un seul sujet à la fois. Il n'y a rien de plus difficile à résoudre quand on met directement 5 problèmes différents qui se sont passés. On essaye de tout résoudre en même temps. Ça devient très confus, on ne sait même pas par où commencer quand il y a trop de choses sur la table. Si le conjoint vient avec une attitude comme ça, il vaut mieux dire « écoute, on va se concentrer sur ce problème-là aujourd'hui. Les autres, on va discuter un autre jour parce que ça ne va pas être possible. » Et le dernier R, c'est rechercher la réconciliation. Rechercher la réconciliation. L'année passée, dans cette série-là, le parcours intérieur le plus profond de ma vie, que vous pouvez écouter sur notre site si vous n'avez pas écouté, on a vu que la réconciliation, ce n'est pas toujours possible. Si l'autre ne veut pas admettre son péché, s'il ne veut pas reconnaître sa part du problème, s'il ne veut pas se repentir, s'il ne veut pas changer d'attitude, ce n'est pas possible d'être réconcilié avec quelqu'un. Celui qui a été blessé a besoin de pardonner, oui, pour son propre bien-être, mais être réconcilié, ce n'est pas toujours possible. D'ailleurs, même avec Dieu, la Bible dit clairement « sans repentance, il n'y a pas de pardon ». Ça veut dire que sans qu'on reconnaisse qu'on est pécheur, qu'on est éloigné, qu'on est dans l'erreur, Dieu ne peut pas nous pardonner. On ne peut pas être réconcilié avec Dieu sans reconnaître nos erreurs. Par contre, si on reconnaît nos erreurs, sincèrement, là, il promet qu'il nous pardonnera et puis la réconciliation est possible. C'est ce qu'il dit ce prochain verset. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Mais il y a le « si » avant, « si on reconnaît nos péchés ». Et dans le couple, si on passe par ces étapes et les deux recherchent une réconciliation, là, il y a toujours de l'espoir. Là, il y a toujours de la guérison possible, toujours. La porte pour se réconcilier est toujours ouverte si les deux veulent. Peu importe ce qui s'est passé. Même si, je sais pas, on va dire, l'autre m'a trompé, ou même si l'autre m'a traité comme rien du tout pendant des années, ou même si, qu'il faut compléter avec ce que vous voulez, si les deux veulent, oui, c'est possible. Et j'aimerais regarder cette petite mise en scène, que vous voyez une situation où c'est possible. C'est quelqu'un qui est venu chercher de l'aide auprès d'un conseiller.
Je n'arrive pas à me remettre de l'adultère de Pamela. Elle dit qu'elle regrette et qu'elle m'a supplié de pardonner. Je dis que je lui pardonnais, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle a fait et à être proche d'elle. Il y a un mur immense entre nous et je n'arrive pas à le franchir. Je suis sûr que vous souffrez tous les deux terriblement, mais je ne pense pas que le divorce soit la solution. Vous échangerez tout simplement une sorte de douleur contre une autre. Il y a une façon de préserver ton mariage tout en mettant vraiment le passé derrière toi. Mais tu n'y parviendras pas avec ce faux pardon que tu as offert à Pamela.
Qu'est-ce que tu veux dire par faux pardon?
Stephen, imagine que tu as confessé un péché grave à Dieu et que pour la première fois de ta vie, il te parle de manière audible pour te dire « Je te pardonne, Stephen ». Mais je ne pourrai jamais être proche de toi à nouveau. Comment est-ce que tu te sentirais?
J'imagine que je sentirais que Dieu ne m'a pas vraiment pardonné.
N'est-ce pas exactement ce que tu fais à Pamela? Imagine que Dieu dise au Stephen, je te pardonne. Je promets de ne plus jamais m'y jeter ton péché. Je promets de ne plus jamais le mentionner ou l'utiliser contre toi. Je promets de ne pas en parler aux autres. Et je promets de ne pas laisser ce péché nous séparer ou affecter notre relation.
Alors, je saurai que je suis entièrement pardonné.
Le pardon dans la Bible ne vient pas de nous-mêmes. On le donne parce qu'on l'a reçu. C'est ce que dit ce verset. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ, ce qu'on a reçu en offre aux autres. Mais j'aimerais vous donner les quatre pas du pardon. Quatre pas du pardon. Le premier, pardonner, c'est pas un sentiment. C'est décider et décider et décider encore une fois. On décide et en même temps on demande que Dieu guérisse la blessure qui est dans notre cœur. C'est pas un sentiment. C'est pas, ah, je sens tellement que je dois... Que je vais pardonner cette personne. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt une décision. Deuxième pas, pardonner, ce n'est pas oublier. On va toujours se rappeler de ce qui s'est passé. Quand la Bible dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés, ça veut pas dire qu'il peut plus se rappeler. Bien sûr qu'il peut se rappeler. C'est qu'il décide de ne pas constamment rappeler nos péchés, de les remettre sur la table. C'est pardonner, il va pas insister là-dessus. Il va pas revenir sur nos fautes. C'est ça, il décide de ne pas se rappeler. Mais c'est pas possible d'oublier ce qui s'est passé. Troisième chose, pardonner, ce n'est pas excuser. Excuser dans le sens, ah oui, mais il était ivre quand il a dit ça. Non, c'est pas excusable. Il était ivre, mais il a fait. Ce qui s'est passé a été vraiment mauvais. Pardonner, c'est pas excuser l'autre et dire, c'est pas grave. Non, c'est grave. Ça s'est passé, mais c'était grave. Si quelqu'un admet son erreur et vient nous dire « j'ai commis cette erreur », on a tout à fait le droit de répondre « oui, ce que tu as fait était très mal, ça m'a beaucoup blessé, il n'y a pas d'excuse. Je t'ai fait confiance et tu as brisé cette confiance. Mais, comme Dieu m'a pardonné, je décide aussi de te pardonner. » On a le droit de dire « c'était mal, C'est vraiment mal ce qui s'est passé. Et dire, mais je décide de pardonner, même comme ça. Et quatrième, pardonner, ce n'est pas retirer toutes les conséquences. Si l'homme d'un couple, par exemple, a dépensé tout plein d'argent avec des jeux de hasard, peut-être vous allez décider qu'il ne pourra plus avoir accès à la carte de crédit du couple. Même s'il a été pardonné, tu es pardonné, mais tu n'auras plus accès à la carte de crédit. C'est pas que je n'ai pas pardonné, mais il y a des conséquences, il y a des limites à mettre. Ou un couple âgé, celui qui est atteint de Alzheimer, laisse toujours la plaque de cuisson allumée. Il sera pardonné, mais il ne pourra plus cuisiner. C'est trop dangereux. Il faut mettre des limites. Ou un adolescent qui a enfreint les règles d'utiliser le portable. On peut le pardonner, mais il va rester une semaine sans téléphone. On garde les conséquences, même s'il a été pardonné. Pardonner, c'est décider d'enlever la barrière qui a brisé la relation, retirer le mur qui nous sépare, comme ils ont dit dans le sketch. Pas nécessairement des conséquences pratiques. On peut laisser des conséquences pratiques, des limites, pour que ça ne se reproduise pas. Et si, par hasard, vous êtes bloqué dans la phase, mais c'est l'autre qui a fait l'erreur, c'est l'autre qui doit venir, j'aimerais vous lire un extrait du billet de dimanche de le journal local. C'est une pasteur à Sushi qui a écrit. Et puis, elle dit qu'elle a été triste quand quelqu'un a dit « Je viens plus à l'église parce que personne est venu me visiter ». Et je comprends la douleur de la personne qui n'a pas été visitée, qui se sent seule. Mais ce qu'elle écrit, en revanche, c'est ça, la pasteur. « J'étais un peu triste, moins pour l'église que pour la personne elle-même. Pourquoi cette personne qui attend passivement qu'il arrive quelque chose, au lieu de faire arriver quelque chose, aller le chercher, de provoquer un peu ? Car un contact, une rencontre, bref, la vie avec les autres, cela ne se tombe pas du ciel, même pas en église. Cela se désire, se cherche, se crée, se construit. Et parfois, il suffit d'un pas tout minuscule, d'un signe, d'un clin d'œil pour que la vie change en une belle aventure vécue et partagée avec les autres. Mais il faut faire ce pas. Cela vaut la peine de le faire au lieu d'attendre, déçu, ça arrive. Parfois, je me demande ce qui se passerait si Dieu n'avait pas fait ce pas envers nous, les humains, en la personne du charpentier de Nazareth. Il serait peut-être toujours en train d'attendre que nous allions vers lui. Il pourrait attendre longtemps encore. Hein. Alors, je vous souhaite de tout cœur l'énergie et les forces nécessaires pour faire le plus souvent possible ce genre de petits pas qui nous met en route vers l'autre. Des petits pas qui rompent la solitude et changent la vie. Oui, c'est vrai, les relations amoureuses peuvent être très compliquées, comme l'a dit Edith Piaf dans la chanson. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ont aussi une force pour nous aider à nous connecter avec Dieu, parce que c'est trop difficile tout seul. On aura besoin de lui, surtout pour des situations où il y a des conflits, on aura besoin de lui. On va devoir dire « Seigneur, aide-moi là, parce que je ne sais pas comment faire. » J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour les conseils de ta parole, qui exige beaucoup quand on laisse notre orgueil de côté pour aller vers l'autre, pour faire le premier pas, pour avoir aussi le courage de dire ce qui a besoin d'être dit pour redresser l'autre, corriger l'autre, mais avec douceur, Seigneur, et le courage aussi de pardonner, de dire que ça a été mal, mais de pardonner. Et comme Clarissa a prié dimanche dernier, donne-nous des opportunités de pratiquer cela, soit dans le couple, soit dans les amitiés, soit dans notre famille, qu'on puisse se rappeler, Seigneur, de te rendre gloire, même au milieu d'un conflit, et rechercher ta présence pour pouvoir le faire, les forces pour pouvoir le faire. Au nom de Jésus, Amen.